C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner en ce 10 octobre, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités, sans mon collègue Simon qui sera de retour dès la semaine prochaine. Au programme aujourd'hui, on parle de chute dans C'est pas faux, pas de chute des prix ni du chômage, on parle bien de chute physique, celle des personnes âgées. Elles entraînent chaque année plus de 130 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès. C'est tout simplement la cause principale de décès chez les plus de 65 ans. Heureusement, elles ne sont pas toutes mortelles, mais elles laissent des séquelles non négligeables. Au-delà de ça, elle pose de vraies questions. Comment adapter notre monde et nos habitudes de vie à nos aînés? Comment détecter les risques de chute et comment les anticiper? Est-il toujours possible de les anticiper d'ailleurs? Antoine Langeard et Marie Héraudeau seront avec nous dans un instant. Ils sont tous deux chercheurs au laboratoire Comet qui travaillent sur les mobilités et ils nous aideront à mieux comprendre ces problématiques. Mais avant, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Jamais 203 pour la NASA, la dernière fusée européenne a décollé cette année, s'est envolée dans la nuit de dimanche à lundi depuis la fameuse base de Kourou en Guyane. À son bord, deux passagers asiatiques, Théos 2 et Triton. L'un est thaïlandais, l'autre taïwanais. Leur mission d'ordre météorologique et climatique. Le premier s'occupe de fournir des informations sur les conditions météorologiques, les ressources en eau et l'utilisation des terres. Le second collecte des signaux à la surface de la mer. De cette manière, ils analysent les vents pour mieux prévoir la trajectoire et l'intensité des tempêtes tropicales. La mission VV23 est réussie certes, mais avec 3 petits jours de retard dû à une mesure un peu trop élevée. Un report qui pourrait passer inaperçu. Seulement problème, entre la guerre en Ukraine, les nouveaux modèles Ariane qui ne sont pas encore prêts et les réparations de dernière minute, sur les 3 fusées européennes, une seule est opérationnelle, celle qui vient de s'envoler. Et encore, elle n'est pas toute jeune puisqu'elle a effectué son premier vol il y a 10 ans. Sa version 2.0 devait effectuer son premier vol l'année dernière, mais elle ne devrait finalement pas décoller avant fin 2024. Un moment de flottement ennuyeux pour l'agence spatiale. Joseph H. Bacher, le directeur général de l'agence spatiale européenne, ajoute même que le domaine des lanceurs se trouve dans une situation difficile, pour ne pas dire une crise. Celui qui a été décoré par la NASA est un chercheur canet. Gilles Clément s'est vu être récompensé de ses recherches et a été décoré par le prestigieux prix Silver Snoopy Award, un prix délivré donc par l'agence américaine de programmes spatiaux qui dit récompenser, je cite, les performances exceptionnelles des chercheurs qu'elle distingue. Et pour cause, le sujet de recherche de Gilles Clément est particulièrement d'actualité et a de quoi faire rêver. Il travaille sur l'effet de l'apesanteur sur les astronautes et travaille depuis 2021 au laboratoire Comet de l'université de Caen, laboratoire auquel appartiennent d'ailleurs les deux chercheurs que l'on va recevoir dans un instant. Il est en particulier spécialiste de la gravité de la planète Mars pour préparer les astronautes à de très longs voyages d'ici 2030, comme l'indique l'université. C'est donc grâce à lui en partie que l'on pourra envoyer des astronautes sur la planète rouge. Tout laisse penser que nos mythes sur la mort et l'au-delà sont les héritiers d'une croyance des Homo sapiens. Voilà ce qu'en conclut l'historien Jules Duy dans une tribune au Monde publiée ce dimanche. Il a mené une enquête ambitieuse sur les rituels funéraires et les mythes des premiers Homo sapiens. Pour cela, il a utilisé une méthode, la philométhologie. Alors ce n'est pas un mix entre la philosophie et la mythologie, mais ça désigne une étude comparative d'un grand nombre de mythes, et ce, grâce aux algorithmes qui ont analysé un grand nombre de motifs mythologiques. Cette méthode se fonde sur un principe simple qui leur a permis de dater l'apparition de ces rites funéraires. Deux traditions qui se ressemblent signifient bien souvent qu'elles ont en commun un ancêtre. C'est un petit peu comme deux cousins qui se ressemblent génétiquement, ils ont un aïeul en commun. Eh bien c'est la même chose pour ces motifs mythologiques. Alors comment les Homo sapiens interprétaient la question de la mort? Comment la voyaient-ils? Ils considéraient l'homme comme originellement immortel, mais qui ne serait plus suite à un événement particulier, souvent une erreur ou un accident, généralement lié à la transgression de l'ordre établi. Il y a donc l'idée de la répercussion de la faute morale à travers ce châtiment. Cette découverte constitue un changement dans l'histoire du monde parce qu'elle montre que nos ancêtres d'il y a 200 000 ans, eh bien, ils avaient créé tout un imaginaire autour de la question de la mort et de l'au-delà. Les séquelles d'un AVC peuvent être réduites, tout comme les risques de récidive, et ce, grâce au sport, c'est ce qu'a démontré une étude suédoise. On sait très bien que la sédentarité a un lien direct avec le risque d'AVC. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que l'activité physique permet de mieux guérir. Les chercheurs de l'université de Göteborg ont prouvé qu'une activité physique régulière, avec 4 heures d'exercice par semaine, peut doubler les chances des patients de récupérer 6 mois après. En clair, si vous êtes actif physiquement et que survient malgré tout un AVC, il sera moins lourd et vous serez rétabli plus facilement. De manière générale, l'activité physique permet à la fois d'éviter et de mieux guérir cet accident qui touche une personne toutes les 4 minutes. Âgé de 30 millions d'années, le Mont Blanc vieillit et se tasse. Les récentes mesures ont défini la taille du Mont Blanc à 4805 mètres. C'est 5 mètres de moins qu'il y a 20 ans. Est-ce pour autant à dire que sa taille chute au fil des années ? Pas si sûr, puisqu'en juin, il mesurait 2 mètres de moins qu'actuellement. Non, ce qui détermine sa hauteur, c'est la couche de neige à sa surface, d'une vingtaine de mètres environ pour les neiges éternelles, auxquelles il faut ajouter la poudreuse à neige fraîche. Le truc, c'est que la neige, sous l'effet du vent, se déplace comme sur les dunes de sable et ne se stabilise donc pas précisément sa structure. Les chutes de neige sont un facteur à prendre en compte et varient donc énormément, de plusieurs mètres en quelques jours parfois. Alors comment s'y sont-ils pris ? Mi-septembre, comme tous les deux ans, une équipe de géomètres experts a grimpé jusqu'au sommet du plus haut sommet d'Europe. Le sac rempli de matériel de précision, grâce à plusieurs satellites, ils ont pu obtenir une cartographie 3D et se sont fait aider pour la première fois d'un drone, permettant un gain de temps énorme. Le réchauffement climatique a-t-il un impact sur l'épaisseur de la couche neigeuse ? Pas encore, puisque la calotte est un véritable frigo pour la plupart du temps, même si le mercure monte ponctuellement jusqu'à 10 degrés Celsius. Il faudrait attendre quelques années pour étudier l'effet à long terme de la hausse des températures sur le Mont Blanc. Pourquoi enterrer des slips ? Oui, vous avez bien entendu. C'est ce qu'ont fait deux agriculteurs des Deux-Sèvres dans leur parcelle de champ. Le but, étudier la vie du sol plus que la vie du slip. On a donc enfoui pendant plusieurs mois trois slips identiques dans trois sols différents. Le résultat est assez surprenant. Les slips des sols riches et vivants, mais aussi des sols remplis de bactéries et d'organismes vivants, sont en lambeaux. Il ne reste que l'élastique, tandis que ceux enterrés dans les sols pauvres sont presque intacts. Au-delà de l'anecdote coca, c'est une étude faite maison certes, mais très sérieuse et même courante en agronomie. Ainsi, si jamais vous tombez sur un slip dans un champ, pas de panique, il s'agit simplement d'une étude scientifique.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Antoine Langeard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en STAPS au laboratoire Comet, mobilité, vieillissement, pathologie, santé. Vous avez notamment porté le projet Parage, un programme participatif qui a été récompensé par le prix Unican Sciences et Société en juin dernier. Et Marie Héraudeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au sein de ce même laboratoire, Comet, et vous êtes davantage spécialisée en pharmacologie. Vous êtes notamment interne en pharmacologie au CHU. Vous avez écrit ou co-écrit plusieurs articles, notamment sur les effets des médicaments sur les personnes âgées, notamment sur les anticonvulsants et antidépresseurs, si je ne me trompe pas, liés à l'autonomie et à l'attention. Vous êtes lauréate du deuxième prix qu'accorde le programme Tête chercheuse chaque année, le prix Musée Schlumberger, pour un projet, on va en reparler, qui s'appelle le projet CAT. Alors, on va parler des risques de chute chez la personne âgée, mais d'abord, tous les deux, vous travaillez sur des sujets de mobilité. Pour commencer, ça regroupe quoi les mobilités ? Et au sein de votre laboratoire, qu'est-ce qu'on étudie ?
Donc, on étudie toutes sortes de mobilités. Ça peut partir de la marche à la conduite automobile, même si on fait un petit peu moins ça maintenant. On s'intéresse aux différents facteurs qui vont impacter cette possibilité de se mouvoir dans l'espace. Ça peut être lié à la force musculaire, ça peut être lié aux fonctions cognitives, aux fonctions du cerveau. Et aussi à tous les facteurs, on va dire, externes qui peuvent impacter ces capacités, donc les médicaments, mais aussi l'activité physique qui va plutôt être bénéfique.
Alors quand on parle de chute, on parle de quoi exactement ? Est-ce qu'on parle d'une perte d'équilibre, d'une perte de mobilité ? Qu'est-ce qu'on cible exactement ?
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter la chute. Il y a notamment le mode de vie, donc un mode de vie qui est plutôt sédentaire. Il y a l'alimentation, donc une alimentation qui est non variée, non équilibrée. On parle également des médicaments, de polymédication, donc le fait d'avoir plusieurs médicaments. Il y a également les obstacles, donc les obstacles à la maison, ça peut être un tapis par exemple qui constitue un obstacle, mais aussi les obstacles dans la rue, donc le fait d'avoir un trottoir qui constitue pour une personne âgée un obstacle à franchir.
Si on veut trouver une définition de la chute, ce serait simplement le fait de se retrouver au sol de manière involontaire en fait.
Ouais. Donc, il y a un obstacle en particulier ou pas forcément finalement
parce pas que... forcément, ça peut être lié à un problème qui serait plutôt interne à votre corps, donc une syncope, un évanouissement, donc ça peut causer une chute sans qu'il y ait forcément un obstacle.
Alors comment est-ce que les habitudes de vie influencent les potentielles chutes chez les personnes âgées justement? Est-ce que ça peut être un moyen quel est le moyen d'éviter ces chutes en étudiant ces habitudes de vie?
Donc on va avoir des habitudes de vie qui vont être plutôt négatives, qui vont augmenter ce risque de chute, et des habitudes de vie qui vont être plutôt positives, qui vont réduire le risque de chuter. Donc dans les habitudes de vie négatives, on a donc la sédentarité qui va entraîner des pertes de masse musculaire par exemple, moins de liens sociaux qui vont avoir des impacts sur la détérioration des fonctions cognitives, et les fonctions positives, les aspects positifs, je peux te laisser les citer si tu veux Marie.
En habitude de vie positive, on va avoir le fait d'avoir une activité physique régulière notamment, le fait d'avoir une alimentation du coup équilibrée et variée.
Voilà.
Donc ça regroupe un mode de vie sain finalement,
voilà,
en fait, pour résumer.
Exactement.
Le plus sain, c'est le moins on a de chances de tomber.
Tout à fait.
Alors elles sont dues à quoi ces chutes la plupart du temps? Est-ce qu'on a des... Vous avez évoqué des obstacles, est-ce que c'est le premier facteur de chute ou est-ce que c'est au contraire une perte de mobilité, une perte de... je dirais oui, d'autonomie, je dirais de... Quel est le facteur le plus marquant?
Donc les deux sont liés de toute façon avec cette perte de mobilité et de capacité, on va avoir tendance à moins réussir à contrer les obstacles, à prévenir les obstacles qui reviennent dans l'environnement. On sait qu'on a environ la moitié des chutes qui ont lieu à l'extérieur, l'autre moitié à l'intérieur. Donc au final, ça n'a pas forcément d'impact l'endroit où on est. Donc voilà, c'est plutôt la manière dont on va réussir à éviter ces chutes-là qui va compter. Et plus on avance en âge, plus on va avoir des difficultés pour les éviter, ces chutes.
Alors vous nous avez exposé les facteurs les plus courants. Est-ce qu'il y a des facteurs plus surprenants qui peuvent causer la chute ou la perte de mobilité des personnes âgées?
On sait qu'on a, je ne sais pas si c'est surprenant, mais on a beaucoup de chutes qui surviennent la nuit parce qu'on a une absence de lumière par exemple, on n'y pense pas forcément. Donc au lever du lit par exemple, si une personne doit se déplacer pour aller aux toilettes, il y a des risques de chute importants à ces moments-là. Donc le fait par exemple d'avoir des problèmes urinaires augmente le risque de chute si vous voulez.
Est-ce que parmi les causes de ces chutes, on compte aussi les pertes de connaissances? Est-ce que ça rentre dans les facteurs de chute?
Oui, ça compte parmi les facteurs de chute. Et puis plus généralement, en fait, lié au vieillissement, on a on peut classer par trois types de gros déclins liés au vieillissement. Les déclins musculaires liés au vieillissement, donc à une faiblesse musculaire, les déclins sensoriels et les déclins cognitifs.
Alors justement, est-ce que ça peut être dû à la prise de certains médicaments, vous qui travaillez justement sur cette thématique-là, est-ce que certaines prises de médicaments peuvent entraîner justement des pertes de connaissances, des vertiges qui peuvent causer les chutes?
Oui, tout à fait. Et ça a été montré déjà que la prise de certains médicaments peut entraîner des troubles cognitifs et donc un risque accru de chute chez la personne âgée, et encore plus le fait... d'être polymédiqué, donc d'avoir plusieurs médicaments sur l'ordonnance, un risque accru de chute.
Il y a un effet additionnel.
Oui.
Et quel médicament en particulier pourrait causer ces chutes?
C'est en particulier les médicaments psychoactifs, mais ça c'est encore à l'étude.
D'accord. Alors comment différencier une chute d'une personne âgée d'une chute d'une personne plus jeune? Est-ce que au-delà de l'âge, on a une différente approche peut-être?
Une approche, c'est sûr, et puis on va pouvoir différencier aussi en fonction des conséquences que ça va causer. Une chute chez des personnes jeunes est rarement invalidante, on va dire, alors que chez les personnes âgées, les conséquences sont nombreuses. On a un grand nombre de fractures qui va résulter, une perte d'autonomie, et on a un cercle vicieux qui va se former avec souvent une peur de chuter et de rechuter importante, et donc un isolement des personnes. Donc on a une différente approche à ce niveau-là, et puis l'âge, c'est le premier facteur de risque de chute. Donc plus on est âgé, plus on a de risque de chuter.
Chez la personne âgée, il y a la composante psychologique aussi de ce fait-là.
Oui, il y a des séquelles qui sont presque autant physiques que psychologiques après une première chute, j'imagine. Est-ce que ça touche davantage les hommes ou les femmes? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas du tout?
Je crois que c'est un peu plus les femmes. En tout cas, les fractures sont plus nombreuses chez les femmes liées aux changements hormonaux qui peuvent se dérouler, et ça peut affecter la densité minérale osseuse, donc un risque de fracture plus important. On a aussi une masse musculaire qui peut être un peu plus amoindrie, donc un risque de chute qui va être un peu plus élevé chez les femmes, oui.
Est-ce que le mode de vie, vous nous avez un petit peu parlé de l'environnement, peut influencer ces chutes au-delà du strict environnement de vie immédiat, je dirais? Est-ce que il peut y avoir des conséquences d'un mode de vie passé sur des chutes futures?
Tout à fait. Ce qui a été montré, c'est que tout au long de la vie, on a une trajectoire qui peut être modifiée, une trajectoire de vieillissement qui peut être modifiée. Plus on a une activité physique intense et fréquente jeune, plus notre trajectoire de vieillissement va être positive. Donc moins notre risque de chute sera important. Il faut savoir quand même que à n'importe quel âge, on peut changer notre mode de vie et avoir un rythme de vie plus actif et modifier, donc de manière un peu plus légère bien sûr, cette trajectoire et donc ce risque de chute.
Et comment est-ce qu'on peut mettre en place un suivi après cette chute? Comment éviter que ça se reproduise une deuxième fois, en fait, tout simplement?
Donc, de manière fréquente, la chute va entraîner des fractures. Donc, on va se retrouver dans des circuits qui vont être liés à la médicalisation, à l'hospitalisation. Donc, dans ces cas-là, on a une prise en charge qui va être plutôt efficace, même si on a encore beaucoup de travail à ce sujet-là. Puis, on va essayer de faire de l'entraînement physique, essayer de faire du renforcement musculaire, quand on peut réhabiliter certaines fonctions cognitives. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'on a identifié des personnes, on peut dire qu'on va réussir une prise en charge qui va être plutôt efficace. Il y a beaucoup de personnes qui vont chuter de manière indétectée et dont on ne va pas pouvoir forcément prévenir la chute invalidante qui va suivre. Donc ces personnes-là, il faut réussir à les détecter, à les cibler. C'est un peu notre travail aussi, essayer de trouver des moyens de réussir à identifier les personnes les plus à risque dans la population.
Alors on va en parler justement de vos deux projets juste après dans quelques instants. Certains individus ne sont pas toujours en possession des leviers d'action qui permettent de limiter ces comportements à risque. Comment est-ce qu'on peut les prendre en charge? Ils n'ont pas forcément les moyens physiques ou financiers d'avoir une activité, qu'elle soit physique ou même d'avoir un environnement sain. Est-ce qu'on peut justement les préserver de ces chutes-là, même si eux-mêmes n'ont pas les capacités de s'en préserver?
Il y a des aides qui sont mises en place par le ministère de l'Autonomie, des aides pour le logement notamment, donc pour éviter ces chutes dans le logement, des aides qui sont mises en place pour participer à une mise en place d'activités physiques dans la ville. Je ne sais pas si tu as d'autres...
Oui, on sait par exemple qu'on a certaines... On peut commencer à faire de la prescription d'activité physique. Donc, ça concerne pour l'instant seulement certaines pathologies, des affections à longue durée. Ça commence à s'étendre à de plus en plus de critères et donc de personnes. Donc, l'idée, c'est de réussir à fournir et à entraîner un rythme de vie plus actif chez ces personnes-là. Mais en effet, ça vient surtout des politiques de santé publique. Donc, on a moins d'actions, de leviers d'action possibles sur ça. Il faut savoir que le gouvernement a quand même lancé un plan anti-chute l'année dernière. Donc, on prend conscience de l'ampleur de ce problème-là, puisque les chutes, c'est trois fois plus de morts que les accidents de la route chaque année.
Donc, très... Justement, est-ce qu'on a des chiffres de décès ou d'hospitalisation des personnes âgées liées à ces chutes?
Oui, alors c'est 10 000 décès par an en France pour les chutes, sachant que pour les accidents de la route, c'est environ 3 000 décès par an. Et on a environ 130 000 hospitalisations par an en France pour chute. Et on dit que c'est environ 2 millions de chutes par an en France, sachant qu'on dit que c'est environ une personne âgée sur trois qui a chuté dans sa vie.
Et ça peut représenter potentiellement une des premières causes de décès parfois chez les personnes âgées. Peut-être pas la première cause, mais en tout cas...
C'est la première cause de décès accidentel.
C'est la première cause de décès accidentel, d'accord. On marque une courte pause musicale sur Radio Phoenix avec The Hardest Part de Olivia Dean. À tout de suite.
Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started? I know you're still waiting, wondering where my heart is. Praying things won't change, but the hardest part is you're realizing maybe I ain't the same. And what you're waiting for ain't there no you up so highly, deep under your
Yeah, you had the chance to love me, but apparently you won't. No, you won't. So even if I could, wouldn't go back where we started. I know you're still waiting, wondering where my heart is. Pretty things won't change, but the hardest part is you're realizing maybe I ain't the same. And what you're waiting for ain't there no more anyway. It's okay, I'm not gonna remember you that way. You say I'm different now, like that's so strange. I was only 18, you should have known that I was always gonna change. Even if I could, wouldn't go back where we started. I know you're still waiting, wondering where my heart is.
C'était The Hardest Part de Olivia Dean sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Langeard et de Marie Hérodeau pour nous parler des chutes chez les personnes âgées. Alors, en quoi est-ce que ça peut être considéré comme un problème de santé publique majeur, selon vous, ces chutes ?
Bah déjà, pour l'effet que ça a sur la santé des personnes, donc on a parlé rapidement des conséquences, que ce soit physiques et psychologiques. Et de manière plus globale, on a des systèmes de soins qui vont se retrouver à devoir gérer donc toutes ces conséquences, les coûts et les conséquences sanitaires, puisqu'on a une population globale, surtout en Normandie, qui vieillit de plus en plus. Donc la chute de la personne âgée, c'est un enjeu de santé publique majeur.
Ouais.
Les coûts, c'est...
Oui, c'est ça. En fait, en plus des conséquences physiques, on va avoir des conséquences psychologiques avec un isolement des personnes âgées, parce qu'en fait, elles vont moins sortir de chez elles, parce qu'elles vont avoir peur de rechuter. Et donc, on va avoir en plus de ça une perte d'autonomie.
Donc, il y a vraiment un cercle vicieux autour de cette chute-là. En France, est-ce qu'on est avancé dans la recherche de la lutte contre ces chutes par rapport à nos voisins ? On se situe comment ?
Je ne sais pas trop si on peut vraiment comparer France contre les voisins. Il y a beaucoup de programmes qui sont européens ou même internationaux. On collabore avec des chercheurs de un petit peu partout. Non, je saurais pas vous dire si on est plus ou moins avancé. En effet, c'est un effort, on va dire, global de la compréhension des différents facteurs, donc de la communauté scientifique. Après, au niveau de la prise en charge, je pense qu'on n'est pas très mal placé au niveau, par exemple, de la proposition du remboursement de certaines activités physiques et ce genre de projets mis en place.
Est-ce qu'on constate une évolution particulière du nombre de chutes ces dernières années, une progression, une diminution au contraire avec ces programmes qui sont mis en place et qui se cumulent ?
Et ben de manière assez étonnante, on a une augmentation du nombre de chutes, donc les programmes sont relativement peu efficaces pour l'instant. C'est aussi pour ça que c'est un sujet de recherche et de santé publique très important et très intéressant. Il y a encore beaucoup de progression à faire au niveau de la compréhension des facteurs de risque, donc de la détection des personnes et de la prise en charge et de la prévention donc, de ces facteurs.
Alors ces solutions, on va en parler justement. Marie Hérodeau, vous avez porté avec Elpidio Atomensa un post-doctorant, ce projet, l'application CAT pour chute des personnes âgées et prévention des troubles de la mobilité. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une application, comme un jeu vidéo ? Il consiste en quoi exactement ? Je vous laisse nous expliquer.
Oui, c'est ça. Alors, on l'appelle CAT parce que ça nous fait penser un peu au chat qui retombe sur ses pattes. L'idée, c'est d'avoir un jeu vidéo qui permettrait de vulgariser les messages clés, les facteurs de risque de la chute, mais aussi les facteurs qui permettraient de protéger cette chute à travers une application d'abord téléphonique, donc qui pourrait être l'application, ça pourrait être un outil accessible au grand public, donc à tous, mais aussi à travers un jeu physique qui serait là disponible aux événements scientifiques, par exemple à la fête de la science.
Est-ce que ce sera présent cette année, alors justement ?
Ah, là, cette année, ça va être compliqué. Ça vient d'être mis en place. Donc, objectif fête de la science 2024, si on est assez bon.
Bon, alors on y sera.
Ouais, c'est ça. Donc là, cette fois-ci, sous forme physique, pour que ça soit plus marquant, pour que voilà, les gens qui viennent puissent participer et puissent en parler à leur entourage et dire « Ah bah voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu que les tapis, c'était dangereux, donc voilà mamie, il faut pas que tu laisses ton tapis chez toi parce que tu peux tomber, voilà. »
Donc il y a une transmission d'informations qui se fait, j'allais dire.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir des messages marquants et qu'il y ait cette transmission d'informations de génération en génération.
Alors, les têtes chercheuses récompensent chaque année les meilleurs travaux scientifiques, les plus innovants aussi. Cette année, pour la 14e édition, c'est vous deux donc qui avez reçu les deux prix que délivrent chaque année les têtes chercheuses, le prix Musée Schlumberger et le prix Unicamp Sciences et Société. Pourquoi vous proposez ces projets dans le cadre de ce concours têtes chercheuses ?
Déjà, on a proposé des projets qui sont en lien direct avec nos thématiques de recherche, donc la chute des personnes âgées. Et il faut savoir que ces deux prix, en particulier le Sciences et Société, mais aussi le prix Schlumberger, ils ont comme mission aussi de promouvoir les sciences participatives. C'est un des axes principaux de ces deux prix. L'un plutôt par l'aspect médiation culturelle, le prix Schlumberger, et l'autre plutôt par l'aspect protocole de recherche participative. Il faut savoir que les recommandations internationales sur la chute des personnes âgées recommandent d'utiliser ce genre de recherche participative, ce qui n'est pas encore assez fait, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des personnes âgées et de ces risques de chute. Si on ne consulte pas les personnes âgées, on passe sans doute à côté de beaucoup d'informations. Donc c'était une bonne idée de pouvoir proposer ces projets participatifs à ce moment-là. Donc ça coïncidait bien avec la volonté du Dôme et de l'université de promouvoir ce type de projet.
Parage, c'est le nom de votre projet, Antoine Langeard. En quoi il consiste exactement ?
Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux les risques de chute des personnes dans les villes. Donc de comprendre à quels endroits et de quelle manière les personnes vont chuter. Pour réussir à comprendre ça, on s'est dit qu'au lieu de nous, chercheurs, pas encore personnes âgées, donc au lieu de nous, consulter les personnes âgées qui sont, eux, sujettes à ces environnements et à risque de chute. Donc l'idée, c'est simplement de leur demander de faire un état des lieux, en se baladant dans la ville, des endroits qu'ils considèrent comme étant les plus à risque. Donc on espère avoir des résultats qui seraient différents de ce que nous, on aurait imaginé, et donc faire avancer les connaissances scientifiques à ce sujet.
Ce projet, c'est l'occasion de leur donner les moyens d'agir par eux-mêmes, finalement.
Exactement.
Ça brise une barrière, peut-être, entre les moyens qu'on leur donne et eux-mêmes, finalement, ça crée un contact plus direct.
Tout à fait, il y a déjà un contact direct entre chercheurs et personnes âgées, et aussi entre décideurs locaux qu'on va essayer de mettre en place et personnes âgées. Les personnes âgées ont finalement assez rarement voix au chapitre en ce qui concerne l'urbanisme et les décisions qui sont prises à ce niveau-là. Donc c'est aussi un peu leur redonner un petit peu de voix, et aussi de notre côté comprendre ce qui se passe pour eux.
Alors justement, vous parliez d'urbanisme, les risques de chute, ils arrivent donc au domicile, mais ils peuvent aussi arriver en ville, c'est d'ailleurs ce sur quoi vous travaillez. Vous nous avez expliqué que les irrégularités des rues peuvent être un facteur de chute. Est-ce que c'est envisageable qu'on puisse adapter certains endroits pour limiter ces risques, et comment est-ce que la parole des personnes âgées va impacter les politiques publiques selon vous ?
Donc c'est un petit peu l'idée de ce projet, justement, c'est d'abord de faire un état des lieux avec ces personnes, donc de manière participative, et ensuite d'essayer de cibler des actions prioritaires. Donc on va essayer de mettre autour de la table toutes les personnes qui ont une possibilité d'action sur ces environnements, donc que ce soit au niveau municipal, mais aussi les urbanistes, les architectes, et essayer d'ensemble décider d'une action déjà. On va commencer par un plan prioritaire, ça peut même être juste un endroit, et voir si on arrive ensemble à trouver une manière de modifier ces environnements et de les rendre plus sécuritaires pour les personnes.
Alors, numérique et seniors ne font pas forcément bon ménage, parce qu'on les habitue pas forcément, ou alors on n'ose pas, parce qu'on se rend compte que la transition est parfois assez plus simple qu'il y paraît. Là aussi, au-delà de la thématique, de la problématique de la mobilité, c'est une manière de les initier aux nouvelles technologies.
Donc ça en fait partie, mais il faut savoir que c'est un peu une idée reçue quand même. On a de plus en plus une proportion, j'ai pas le chiffre en tête, mais très grande de personnes âgées qui a un téléphone portable, qui sait très bien utiliser même les réseaux sociaux. Donc je pense que sur la proportion de personnes qu'on aura, il y en aura déjà beaucoup qui seront complètement initiées. Mais oui, en effet, augmenter la compréhension de ces outils, ça fait aussi partie des enjeux. Oui.
Alors, à qui s'adressent ces projets exactement ? Est-ce qu'ils s'adressent strictement à ceux qui ont plus de 65 ans, ou alors ça touche de manière directe ou indirecte d'autres publics ?
Alors oui, en effet, ces projets s'adressent aux 45-65 ans, puisqu'en fait, on travaille tous les deux au laboratoire Comet, et il a été montré que entre 45 et 65 ans, c'est à partir de cet âge-là que les habitudes de vie ont un impact après sur le vieillissement.
Donc sur l'autre projet, c'est plutôt vraiment s'intéresser aux personnes âgées à risque. Donc là, on est plutôt sur des publics de 65 ans et plus. Mais je pense que à terme, donc le projet il est encore en maturation, mais à terme on s'intéressera à d'autres populations qui peuvent être sujets à des difficultés de déplacement. Donc ça peut être les familles avec des poussettes, ça peut être les femmes enceintes. Je pense que l'idée ce sera à terme de réussir à réunir le plus grand nombre de personnes qui se déplacent dans la ville pour essayer que les solutions et les décisions conviennent à tous.
Et pour, en quoi vous diriez que vos projets sont complémentaires ?
Donc je pense que le projet de Marie, il a un objectif qui est lié à la prévention, donc avant l'âge de 65 ans, et aussi un objectif de diffusion de la connaissance qui est très important. L'objectif, ce sera du projet, je peux t'en laisser en parler un petit peu plus, mais de diffuser le plus possible l'outil par différents moyens.
Oui, c'est exactement ça. L'objectif, c'est plutôt un objectif de prévention et de vulgarisation de l'information, de diffusion au plus grand nombre, en fait. Ouais, c'est exactement ça.
Alors justement, vous accomplissez du coup une mission de médiation qui est chère aussi à la recherche cannaise. Pourquoi c'est important pour vous de participer à cette médiation scientifique ?
C'est très important pour nous d'être proche du public. On fait beaucoup d'actions de vulgarisation et de médiation, surtout au laboratoire Comet à Caen. On participe beaucoup aux événements Fêtes de la Science, Semaine du Cerveau, surtout au laboratoire Comet. On aime bien expliquer ce qu'on fait à tous les événements, sur vulgariser nos recherches. C'est très important même pour nous. Ça nous permet de vraiment... expliquer ce qu'on fait, voilà.
Et d'avoir un appui concret aussi, ouais. de voir de quelle manière c'est reçu concrètement, peut-être.
C'est ça, c'est un très bon exercice, en fait.
Et pour finir, Antoine Langeard, quand est-ce qu'ils seront attendus ces premiers résultats de votre projet par âge ?
Donc on espère que le projet pourra commencer en janvier. L'idée, ça va être de monter un projet, d'abord de constituer un consortium, donc une équipe qui va travailler autour de ce projet-là, qui va inclure des personnes âgées elles-mêmes, en plusieurs étapes sur une année complète. Donc je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, on aura des résultats intéressants. Puis on essaiera d'élargir le plus possible pour essayer de cibler une zone géographique la plus large possible et s'intéresser aux risques de chute dans des zones plus grandes.
Merci beaucoup à vous deux, Antoine Langeard et Marie Hérodo, d'avoir été à notre micro ce midi. Je rappelle que vous êtes tous les deux chercheurs au laboratoire Comet qui travaille sur les mobilités. Merci et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et encore merci à Antoine Langeard et à Marie Hérodo d'avoir été avec nous pour parler des chutes chez les personnes âgées. Avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence cet agenda avec cet appel à volontaires du laboratoire NIMH qui cherche à étudier les liens entre sommeil et cancer du sein. Car oui, il y a un lien, du moins ces questionnements sont au cœur d'une étude du nom de I Can Sleep qui peut participer toutes les femmes âgées de 45 à 65 ans qui ont des difficultés de sommeil et qui n'ont ni soucis de santé ni antécédents de cancer. Pour participer, rendez-vous sur le site de l'Université de Caen ou directement en contactant le laboratoire à noter bien U minuscule 1077.icansleep@unican.fr, U minuscule 1077.icansleep@unican.fr. La mer monte, c'est un constat implacable, thématique que la conférence théâtralisée de vendredi prochain rencontre, même si elle est mise en scène de façon décalée et humoristique par deux comédiennes de la compagnie Au Follet, elle se base sur les derniers rapports du GIEC normand. Cette conférence théâtralisée s'appelle « Debout les vaches, la mer monte », mais elle met en scène trois personnages confrontés au phénomène, un conférencier du GIEC qui présente les résultats des travaux de son laboratoire, confronté à deux comédiennes qui l'interpellent et interagissent avec lui de façon loufoque. Cette représentation sera suivie d'un échange avec Marie Francou qui nous présentera les programmes de sciences participatives en mer et sur le littoral. Cet événement culturel très complet aura lieu vendredi prochain, le 13 octobre, de 18h30 à 21h. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site du Dôme. Et puis une dernière info pour boucler la saison, la fête de la science ce week-end, faut-il le rappeler, avec le village des sciences où vous pourrez rencontrer des chercheurs et même participer à des ateliers immersifs. De nombreuses conférences vous seront proposées, dont celle dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la fête de la science pour avoir toutes les informations. fetedelascience-normandie.fr. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une excellente journée, chaude et ensoleillée, à l'écoute de Radio Phoenix.